Merci beaucoup. Oui, comme Mike l'expliquait, nous nous connaissons donc depuis longtemps et nous sommes toujours heureux de venir voir l'œuvre que le Seigneur continue de faire à Paris. Pas une ville facile pour implanter une église, mais ils ont beaucoup de persévérance et d'endurance et le Seigneur les bénit. Il les a bénis avec une merveilleuse famille que vous connaissez et aujourd'hui, il m'a demandé de prêcher et j'ai pensé que un sujet qui peut-être vous intéresserait, c'était pourquoi venir à l'église? Pourquoi aller à l'église? C'est une question qui peut paraître un peu bizarre. Si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous passiez dans la rue et vous avez entendu de la musique. Peut-être que vous êtes dans une autre église, et c'est très bien. Mais ce qui compte, c'est de réaliser le bonheur que vous avez de pouvoir aller dans une église. Avec le Covid et la disruption, ou je ne sais même plus comment on dit en français, disruption, le fait que ça a tout chamboulé, on a pris pour certains l'habitude d'aller au culte sur Zoom. C'est bien, on peut rester en pyjama pour le bas et puis mettre une chemise et faire semblant qu'on est très attentif en faisant attention de ne pas trop montrer la tasse de café. Et je remercie la technologie qui nous a permis de faire face à cette séparation avec ce confinement terrible. Mais de grâce, ne laissez pas ça vous devenir une habitude. C'est pratique, mais ça ne remplace pas la présence dans une église. C'est intéressant, comme le disait Mike, mon fils Tonio a pris la suite de l'église, donc c'est lui maintenant le pasteur. Et j'ai l'occasion de prêcher quelques fois, mais depuis 2 semaines, ma femme et moi avons décidé d'offrir un cours pour les nouveaux croyants. Et ce qui m'a intéressé, c'est que la première session dans ce programme qui explique qu'est-ce que c'est qu'être chrétien, il y a dès le départ le symbole de la roue. Et le centre, le moyeu de la roue, c'est Jésus-Christ. On l'a chanté, Jésus, tu es le centre. Et puis, à l'extérieur, la jante ou la... c'est moi, c'est nous, les chrétiens. Et pour que votre vie soit bien centrée sur Christ, il faut que la jante soit tenue, soit reliée au noyau, à Jésus-Christ, le moyeu, le centre de nos vies, par au moins 4 rayons solides. Le premier, c'est la prière. Ça commence comme ça, la vie chrétienne. On réalise qu'on a un manque, qu'il doit y avoir quelqu'un de plus grand que nous, quelqu'un nous en parle, et on prie. Et puis le deuxième élément qui doit nous tenir à la roue, c'est la nourriture, c'est la parole de Dieu. Donc il faut prier, mais il faut aussi lire la parole. Et puis un des autres rayons, qui nous reliait au moyeu, c'est l'obéissance. C'est pas le tout de recevoir des vérités si elles n'ont aucune influence dans notre vie. Ça va pas le faire. Mais il y avait un quatrième rayon, et ça, ce rayon-là, c'était la communion fraternelle, c'est la communauté de l'Église. Donc, le fait de venir à l'Église, d'appartenir à une Église, c'est pas quelque chose de « bof, si on a le temps le dimanche de temps en temps », c'est quelque chose de vital. Et dans cette présentation, la prière, c'était comparé à l'air. Un bébé, quand il arrive, il a besoin d'air pour respirer, pour prier, pour Donc ça, ça correspond à notre prière. Il a aussi besoin de nourriture. Tout de suite, il trouve la nourriture dans le sein de sa maman. Il a besoin d'être nourri. Sinon, il va rester petit, il va pas survivre. Il faut aussi qu'il puisse faire de l'exercice, bouger, faire grandir ses muscles. On a tous en mémoire ces scènes dans les orphelinats en Roumanie à une époque où les enfants étaient coincés dans un lit et ils ne pouvaient pas grandir, ils étaient chétifs et n'avaient pas de quoi continuer. Mais le quatrième point, c'est la famille. Un enfant, s'il n'a pas une famille, au moins un parent, idéalement un papa, une maman, peut-être même des frères et sœurs, des oncles, des grands-parents, si vous n'avez pas de famille, c'est très difficile de grandir de façon saine. Donc j'étais frappé d'être que, en fait, ce programme, la première chose qui était rappelée, c'est que l'Église, ce n'est pas facultatif. L'Église, ce n'est pas seulement Zoom. Alors, vous avez tous entendu les versets dans Hébreux, où il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée, le fait de nous rassembler ensemble, comme certains, déjà à l'époque, en avaient l'habitude, mais on s'encourage mutuellement, en se connaissant, en partageant nos vies, en priant les uns pour les autres, en sachant ce qui se passe, en se réjouissant avec les bonnes nouvelles qui arrivent chez certains, et en pleurant avec les autres quand ils sont dans la peine et la douleur. Il est même dit, faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, si on trouve ça dans le Nouveau Testament, mais on le trouve aussi dans l'Ancien Testament. Et il y a un passage très intéressant qui n'est pas tellement connu. C'est le psaume 73. Donc le psaume 73 qui est indiqué là-haut. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir à cette page. Je vais utiliser la version second 21 parce que c'est une des versions les plus courantes, plus facilement accessibles maintenant, surtout avec cette Bible très bon marché, mais très, très valable. Et on va lire et commenter ensemble. Et vous allez voir qu'en fait, dans ce vieux psaume, écrit non pas par David, mais Asaph. Asaph, c'était un des chefs de louange au temps de David. Et c'est aussi le nom, c'était un peu une dynastie de musiciens, une famille de musiciens qui ont vécu à l'époque du roi David, mais aussi même à l'époque du roi Salomon, son successeur. Et on va voir une chose qui est importante, c'est que dans la vie chrétienne, c'est pour ça qu'il est important de connaître la parole, vous allez apprendre des vérités très importantes. Vous les acceptez, surtout quand tout va bien, et puis quand les choses ne sont pas en accord avec ce que vous attendez ou ce que vous attendiez, il y a un danger que vous vous mettiez à remettre en question ces vérités fondamentales. Et là, le psalmiste commence par deux versets. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Ça, c'est le première déclaration. C'est comme une ancre à laquelle on peut s'attacher. Dieu est bon pour Israël, c'était son peuple à l'époque. Il est bon pour l'Église, il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Matthieu nous disait... Jésus, dans Matthieu 5, 3, disait « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » C'est ceux qui sont nets de cœur. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais ils ont le désir de tout leur cœur de plaire à Dieu, de vivre pour Dieu. Et donc ça, c'est fondamental. Dieu est bon. On a entendu tout à l'heure, par les chants, c'est une façon formidable aussi d'apprendre des vérités fondamentales auxquelles il faut s'attacher, qu'il faut mettre dans son cœur et ne pas laisser les événements, les circonstances nous arracher. On sait que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés conformément à son plan. Romains 8, 28. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qu'il a appelés selon son plan. Il y a bien des fois où on se dit, mais ce qui m'arrive en ce moment, c'est pas formidable. Si ça, c'est le bien que Dieu me donne, alors on sait quelque part qu'on ne doit pas remettre en question la parole de Dieu. On ne va pas peut-être le dire ouvertement le dimanche matin avec les amis de l'Église. Peut-être, hein, si on a des amis intimes, on va dire, ça ne va vraiment pas du tout en ce moment. On peut même dire, je ne sais pas où est Dieu. Parce que ce qui m'arrive, cette maladie qui est terrible, cet accident qui me prive de mobilité, comment est-ce que ça peut être quelque chose de bien, de valable dans ma vie? Et c'est là qu'il faut se rappeler, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sais que Dieu a un plan, je sais que je peux lui faire confiance. Il y a quelques années, je faisais du canyoning avec mes enfants et j'étais assez sportif et donc je me dis pas de problème, je viens, ouais, j'ai envie de descendre les torrents, de sauter dans les vasques, de faire du toboggan sur les rochers. Et puis là, j'ai sauté, mais je me suis mal reçu. C'était un saut assez haut, je pensais que j'avais aucun problème. Je me suis mal reçu et mon corps s'est plié assez violemment. Et ça m'a fait un peu mal. Mais le coach qui était avec nous m'a dit, est-ce que tu peux bouger les doigts de pied? J'ai dit, ben oui. Il dit, bon, ça va, mais on va y aller mollo, mais ça va, c'est pas grave. Donc j'ai continué à faire du canyoning pendant 2 heures. Heureusement, j'avais une combinaison en néoprène qui me tenait bien. Il faisait froid, donc le corps était un peu bien ferme. Mais quand je suis arrivé à la maison, moi, j'ai dit j'ai très mal. Je suis allé aux urgences. Je suis tombé sur un interne qui ne s'y connaissait pas trop, qui n'était pas très sérieux, qui m'a dit non, on ne va pas prendre de radio. Je vois que la colonne vertébrale est toujours bien. Il n'y a pas de problème. Et puis, le lendemain, j'avais encore mal. Je suis allé voir mon généraliste en bougeant les pieds comme ça pendant ce qui aurait dû me prendre 5 minutes. Ça m'a pris une demi-heure. Et il m'a envoyé tout de suite faire une radio. Et rapidement, on s'est aperçu qu'en fait, j'avais une vertèbre qui était écrasée. Par chance, Dieu m'avait épargné. La moelle épinière n'était pas coupée. Mais il s'en était fallu de très peu. Et donc, pendant 3 mois, j'ai dû être allongé. Je porte toujours des bouts de métal dans le dos. Et quelque part, c'est là où on se dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est pas... Seigneur, tu aurais peut-être pu éviter cet épisode-là. Et je suis sûr que parmi vous, vous avez connu des choses aussi difficiles dans la vie, des décès, des revers de fortune, comme on dit. Mais en fait, rapidement, j'ai ressenti la paix du Seigneur et j'ai eu plus le sentiment de dire « Qu'est-ce que tu vas faire de ça, Seigneur ?» J'avais confiance que ce n'était pas en vain, ce n'était pas un accident, ce n'est pas parce qu'il avait... Il avait été distrait par un programme à la télé ou quelque chose. Il a permis que ça m'arrive et je me disais, qu'est-ce qui va en ressortir de bien? Et en fait, en regardant en arrière, je vois que c'est là que mon fils a dit, papa, je pensais que j'allais faire appel à différents anciens, d'autres pasteurs pour assurer l'église. Et mon fils m'a dit, écoute papa, je pense que je peux le faire, je te remplace pendant 3 mois. Et pour lui, ça a été une formation qui lui a permis, quelques années plus tard, de dire, j'accepte de prendre la suite du pastorat à l'église, ce qui est une bénédiction. Il se débrouille bien. J'étais un peu hésitant parce que je disais, c'est un peu ce qu'on appelle le népotisme, c'est-à-dire qu'on met dans des postes de responsable quelqu'un de la famille. Et un pasteur très sage m'a dit, c'est pas parce qu'il est le fils du pasteur qu'il devrait prendre la suite du pasteur, mais ce n'est pas non plus parce qu'il est le fils du pasteur qu'il ne devrait pas prendre la suite du pasteur, si c'est l'appel de Dieu. Donc je vous dis ça comme un petit exemple personnel où on sait que Dieu est bon, mais il y a des fois on se demande. Et voilà, c'est ce que nous dit ce brave Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël et pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. Il avait un problème. Il avait du mal à croire que Dieu était vraiment bon. Et son problème, c'était un peu spécial. Ce n'était pas un accident de canyoning ou un revers de fortune. C'était qu'il voyait les non-croyants prospérer. J'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Alors, dans la Bible, il est souvent question des bons et des méchants. Dieu fait briller le soleil sur les bons et les méchants. Ça veut vraiment dire sur les croyants et sur les non-croyants. Méchants, ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours à essayer de faire du mal, mais ça veut dire qu'ils ont mis Dieu de côté, ils ne se préoccupent pas de ce qu'il peut vouloir pour leur vie. Et il constatait qu'autour de lui, les non-croyants étaient apparemment bénis par Dieu. Il disait, rien, verset 4, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps prend de l'embonpoint. Alors aujourd'hui, prendre de l'embonpoint, c'est quelque chose qu'on déteste. On veut être svelte. Mais à l'époque, l'embonpoint, c'est un signe de prospérité. Ça voulait dire qu'on avait de quoi se nourrir tous les jours, de manger des mets riches, etc. Et quelqu'un qui avait de l'embonpoint, c'était quelqu'un qui était béni par Dieu. Aujourd'hui, c'est pas dans notre société où il y a la chose inverse, quoi. Il y a des gens qui sont trop maigres, qui deviennent malades à vouloir force de maigrir, mais peu importe. Lui, il disait, ils sont tranquilles jusqu'à la mort. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, verset 5. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Bref, tout va bien pour eux. Et on a tendance, quand on ne raisonne plus sainement, là c'était cette façon de jalouser les non-croyants, c'était pas quelque chose de beau, de sain, de juste à faire. Et quand on dévie de la sagesse, on a tendance à exagérer. Tout va mal. Rien ne les tourmente jusqu'à dans leur mort. C'est pas vrai. Ces non-croyants, ils avaient aussi des maladies, ils avaient aussi des proches qui décédaient. Ils avaient part aussi aux souffrances humaines. Là, ils n'ont aucune part. Et tout va bien pour eux. Ils font n'importe quoi. Et Dieu, toi, tu les bénis. Tu continues de les bénir. Et puis, ils constatent. C'est intéressant parce que là, les premiers versets, jusqu'à peu près au verset, on peut dire jusqu'au verset 14, non, jusqu'au verset 12, le pronom proéminent, c'est « ils », « eux ». Ils regardent les autres. Et puis, il va se plaindre en disant « je ». Je vois les autres qui prospèrent, mais moi, je suis dans le malheur. Et finalement, on verra qu'à la fin, comme souvent c'est le cas dans les psaumes, le psalmiste, en l'occurrence Asaph, se ressaisit. Et puis là, il porte son regard sur Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous faire. Si on commence à regarder les autres, à se comparer, on va vite se centrer sur nous-mêmes, se plaindre de notre sort, alors qu'en fait, ce qu'il faut faire pour avoir une juste vision des choses, une saine et sage vision des choses, des réalités, c'est de se tourner et de regarder Dieu. Et donc, il constate que ces gens, c'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Comme tout va bien pour eux, ils en tirent de l'orgueil. On peut avoir cette tendance aussi à se dire, bah si mes enfants sont en bonne santé, c'est que je les éduque bien, je prends bien soin d'eux. En fait, à tout moment, on doit se dire merci, merci à Dieu pour sa grâce qui nous permet, même en leur laissant manger des cochonneries, de ce qu'ils sont encore en bonne santé. Mais ces gens-là, pour le psalmiste, ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. C'est très poétique, ça. C'est pas très beau, l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose qu'on renifle tout de suite. Quand quelqu'un est orgueilleux, on n'a pas envie d'être auprès d'eux parce qu'ils sont toujours en train de se mettre en valeur et d'abaisser les autres. Et la violence suit. Ils n'ont aucun égard pour les autres. Donc, ils se moquent s'il y a des gens qui meurent de faim au dehors de la porte, là. Ils ne se soucient pas des autres et ça peut même être de la violence. Donc, ils ont un collier, c'est l'orgueil, et un manteau, la violence. Ce n'est pas un beau costume. Il ricane, verset 8, et parle méchamment d'opprimés. Il y en a même qui font des plans pour mépriser et faire du mal aux autres. Il parle méchamment d'opprimés. Il profère des discours hautains. Moi, j'ai réussi tout seul à force de travail et de discipline. Peut-être un peu de chance aussi, ou un peu de bénédiction de Dieu qui aimerait qu'elle soit reconnue. Et leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Ils profèrent des critiques à l'égard d'un Dieu qui n'existe pas. C'est intéressant lorsque les gens disent « Où il est ton Dieu ?» S'il était là, moi j'aurais deux mots à lui dire. Mais parle-lui, il est là. Et leur langue balaie la terre. Donc ils disent du mal de Dieu, des cieux, et ça balaie la terre, ils disent du mal de tous les autres, et surtout des croyants. Puis il arrive au verset 10. « Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. » Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Alors, il y a différentes façons d'interpréter ces deux versets, mais là, la seconde 21 a déjà interprété pour nous. Vous êtes en droit de remettre ça en question, mais il parle le peuple, son peuple, ce serait le peuple de Dieu. On pourrait penser que ça pourrait être le Dieu de l'ensemble des méchants. À ce moment-là, ce serait Satan. Mais ça marche aussi avec Dieu, son peuple. Il se tourne du côté de ceux qui critiquent Dieu. Ils boivent leurs paroles avidement. Ils disent, ah ben oui, c'est vrai. Si Dieu m'aimait, pourquoi est-ce que je me serais cassé le dos en faisant du tourisme aquatique? Et donc, on peut en arriver à mettre en doute Dieu, à mettre en doute ses vérités fondamentales. Dieu est bon, Dieu m'aime, il a des bons plans pour ma vie, il est mort pour moi. comment est-ce que Dieu pourrait-il, il dit comment Dieu pourrait-il savoir, y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? On se dit finalement, Dieu n'a pas l'air de se soucier très fort de mon propre sort. Je ne sais pas si, s'il est vraiment intéressé par moi, si ce que l'on dit Dieu est bon pour les croyants, est-ce que c'est vrai à 100%? Ou est-ce que peut-être il y a des exceptions? Ou peut-être il y a des fois où il est un peu distrait? Et donc, il continue. Là, voici comment sont les méchants, les non-croyants, ils sont toujours tranquilles. Lui, il est toujours dans cette perspective faussée. Il voit les autres en disant ils ont tout leur réussi. Ils augmentent leur richesse. Moi, je suis chrétien, j'aide mon prochain, je lis la parole de Dieu tous les jours, je prie, et puis j'arrive pas à trouver un travail stable, alors qu'il y a mon voisin, lui, il se moque de Dieu, il a un sacré job, tu verrais sa maison avec une piscine dans telle banlieue ou telle autre banlieue. On se demande à quoi ça sert de servir Dieu. L'idée, je ne sais pas s'il y en a qui aiment le rap, ceux qui font du rap, mais ce reproche qui est fait à Dieu, ça pourrait être de dire « Il prospère et moi je galère. Ils prospèrent, ils ont tout ce qu'ils veulent et moi je n'ai rien, je galère, j'arrête pas. » Ces gens qui vivent sans Dieu, finalement, à quoi bon servir Dieu? Et c'est là qu'il commence à parler de ce qu'il a fait. Lui, il commence à parler de « je ». Il revient sur lui. « C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. » Ça ne sert à rien d'être croyant, de servir Dieu. Mon sort n'est pas enviable. Ça ne sert à rien. Et ça, c'est un sentiment qui est d'autant plus difficile que pour Asaph, il a l'impression que c'est Dieu qui lui inflige des difficultés. On peut penser que c'est Dieu qui nous inflige des difficultés. Et il dit, chaque jour, je suis frappé. J'ai des problèmes tous les jours. Tous les matins, je suis repris. C'est un peu comme s'il se dit, tu laisses tout passer aux incroyants, mais avec moi, tu es sans pitié. Dès qu'il y a un microbe à attraper, c'est dans ma famille que ça arrive. Les enfants sont malades. J'ai chopé le Covid. Et puis, il y en a d'autres, ils vont faire du ski, et eux, ils sont bronzés, en bonne santé, rien ne leur arrive. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de réconcilier des fois ce qu'on sait de Dieu, ses vérités fondamentales, et ce qui est notre expérience personnelle. Et là, au verset 16, plutôt 15, il a dit « Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirai tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. » Il a un grain de bon sens chrétien qui se met à fonctionner dans sa tête. Il se dit, je pourrais parler comme eux contre Dieu, je pourrais critiquer Dieu. Mais je trahirai les enfants de Dieu, le peuple des croyants. Et c'est difficile. Quand j'ai réfléchi pour comprendre, la difficulté a été grande à mes yeux de réconcilier ce que je sais et ce que je vis. C'est pas facile. Mais il a le bon sens de se dire, je vais quand même ne pas critiquer Dieu ouvertement. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous reprendre, ça me reprend personnellement, parce que bien des fois, je suis le premier à me plaindre de mon sort, de mes circonstances. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé sauter dans l'eau? Tu aurais pu faire que je n'aille pas à cette initiation au canyoning? Ou pourquoi est-ce que je n'ai pas eu le job? J'avais le profil parfait, mais il y avait quelqu'un qui avait le profil parfait et un petit peu plus, et il a été pris. Mais chaque fois qu'on se plaint de notre sort, de qui se plaint-on en fait? Et encore une fois, je me parle à moi-même, je me sens très coupable de ce... Je suis un râleur aussi, je suis français. Donc je suis râleur, mais c'est une boutade. Même s'il y a une vérité derrière, chacun individuellement, on doit être, doit faire très attention à ce que l'on dit, parce que les autres vous regardent vivre. Et s'ils voient que vous vous plaignez de votre sort, ah mais où il est ton Dieu? Tu vois qu'il finalement il n'est pas là pour toi. Faisons très attention parce que nous rendons témoignage par nos vies. Et je sais que vous avez à cœur l'évangélisation, mais quand on rouspète, on fait de la contre-évangélisation. Ce n'est pas la peine d'aller passer une matinée à évangéliser dans la rue si quand vous rentrez chez vous, les voisins vous entendent rouspéter ou vous entendent vous plaindre de vos rhumatismes ou de je ne sais quoi. Et on arrive à la raison qui va basculer, il y a une bascule dans les psaumes souvent. C'est le verset 17. Je me plaignais, j'y comprenais rien, je ne comprenais pas, j'en voulais à Dieu, mais je ne lui disais pas trop ouvertement parce que je savais que ça pouvait être dangereux. Mais ça a été jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Le sanctuaire de Dieu, c'est là que votre pensée est rectifiée par la parole de Dieu, par la prière, par l'obéissance, par la communion fraternelle. C'est là que vous retrouvez la vraie et juste perspective sur les choses de la vie et de l'éternité. Nous sommes heureux qu'au numéro 20 ou 22 ? 20 ici ?
22.
22. Qu'au numéro 22 de la rue de l'Hirondelle, il y a un endroit où vous puissiez entrer et recevoir la vérité divine. Par la parole de Dieu, par l'Esprit Saint qui est à l'œuvre, par la communion fraternelle, par l'obéissance mutuelle, par l'aide, l'entraide, vous êtes appelé aussi à voir le sort final des méchants. C'est bien beau d'être riche et bien portant, d'avoir un yacht géant, d'être un oligarque russe, mais ça ne dure qu'un temps. Et vous savez qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas le bonheur qu'on peut avoir sur terre, ce n'est pas les possessions qu'on peut accumuler sur terre, c'est la réalité finale. Je disais, mon fils a 40 ans, je peux me souvenir de sa naissance comme si c'était hier. 40 ans, plus 40, 80, il faut déjà y arriver. Plus 40 encore, 120, c'est rarissime. La vie ici-bas est très courte. C'est normal, on se donne du mal, on veut assurer le bien-être de ceux qui nous entourent, on travaille dur pour faire des études, pour avoir un job, Et puis il y a des choses qui se passent, et puis, ce qui compte, c'est le sort final. C'est le résultat final. Ce qui est intéressant, et j'aime bien les petits moyens pour essayer de s'y repérer un peu dans les livres de la Bible, ça c'est le psaume 73. Si vous intervertissez les chiffres, vous tombez sur le psaume 37. Et le psaume 37 parle un peu du même problème. Je vais juste lire. C'était David qui écrivait « Ne t'irritez pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Juste un petit rappel comme ça. C'est pas un thème... C'est un thème qui revient souvent, parce que c'est un thème qui pose question aux chrétiens. Les chrétiens qui sont souvent persécutés, nous, on vit relativement tranquillement. Il y a des chrétiens dans des pays musulmans ou d'autres pays qui sont persécutés pour leur foi. Mais ils savent, ils ont leurs yeux fixés sur l'éternité, et ils peuvent endurer les choses difficiles. C'est ce qu'on appelle la perspective éternelle. Et cette perspective éternelle, c'est pas en vivant dans le monde qu'on va l'acquérir. C'est en vivant dans les sanctuaires de Dieu. C'est en étant planté dans une église, en lisant la parole, en priant ensemble, en priant seul, en servant. L'obéissance, vous vous rappelez, c'est comme de l'exercice. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le pronom plutôt qui va prédominer, c'est le pronom « tu ». Maintenant, après avoir regardé les autres, à dire « Ah, bah, dis donc, quelle chance ils ont !» Et moi, je suis... Ah, Dieu ! Il fixe les yeux sur Dieu et il dit « Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine. » C'est intéressant, au début... Il disait que son pied était sur le point de glisser. Mais maintenant, c'est plus lui qui va glisser parce qu'il s'est ressaisi. C'est la réalité, ce sont les incroyants qui vont tomber dans la ruine. Destruction, désolation, terreur. En voilà, en un instant, verset 19, ils sont détruits. Ils ont disparu. Ils sont anéantis par l'épouvante. Ils vont être objet de destruction, de désolation, de peur, de terreur. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Pour le psalmiste, il avait l'impression que Dieu dormait, qu'il laissait les mauvais, les non-croyants être bénis au-delà de ce que expérimentaient ceux qui l'avaient appelé leur Dieu. Et donc il dit, c'est comme si tu t'es réveillé, Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui s'est réveillé, c'est Asaph. Et nous aussi, lorsque nous sommes dans cette situation où nous nous plaignons de tout, et encore ici, malheureusement, je n'ai pas besoin de penser à il y a 3 ans, la fois où je m'étais plaint. Je peux me rappeler ce matin. Ce matin, je me plaignais parce que j'étais en RER et j'essayais d'arriver à l'heure. Et on annonce que le train est stoppé parce que quelqu'un a trouvé un bagage abandonné. Là, je dis, ah, c'est bien. Alors, il suffit de prendre n'importe quelle valise dans la rue. On prend une valise, on l'amène dans le métro, on la laisse, et on s'en va. Et on désorganise le trafic de millions de personnes. Ah là là, ah là là. Pardon, Seigneur. Je peux me rendre à mon rendez-vous assis dans un confortable RER. Finalement, le train est reparti 10 minutes sans s'arrêter à Nation, où il y avait le problème. Mais au moins, je suis arrivé à l'heure. Il lit verset 21, « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés. » Il était probablement touché par la maladie. Il y a quelques années, après avoir prêché ici, j'étais rentré à la maison et j'avais dû m'asseoir dans la rue, Gilles Cœur ou je ne sais plus, parce que j'avais une douleur terrible dans les reins. En fait, c'était des calculs rénaux qui s'étaient déclenchés pendant une période de canicule. Je ne buvais pas assez, visiblement. Et là aussi, il y a cette... Ça, on a l'impression qu'on nous transperce les reins. Peut-être qu'il avait d'autres problèmes. Mais ce qui est beau, c'est qu'il revient à lui-même et il dit « J'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Je pensais, bref, comme un animal. » Et puis, il dit « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. » Quand on revient à nos sens, il ne faut pas non plus en être fier et s'en enorgueillir, c'est parce que Dieu nous secoue et nous dit « Allez, Pierre, pense à la réalité des choses. Tu me conduiras, il a l'assurance, par ton conseil, puis tu me prendras dans ta gloire. Notre futur est merveilleux si nous cessons de nous fixer, de fixer nos regards sur nos conditions présentes et que nous passons du temps avec Dieu. » Dans l'intimité, dans l'amour de Dieu, nous devrions être les plus heureux des gens. Et c'est ça qui va attirer les autres. C'est ça le vrai témoignage. Ce n'est pas lorsque quelqu'un rouspète, mais c'est que quand quelqu'un respire la joie de vivre malgré des difficultés. Là, on se dit, mais comment tu fais? Qu'est-ce qui t'anime pour... Moi, si ça m'arrivait, je ne pourrais plus vivre. Et puis, il dit... Et on peut le dire tous ensemble avec lui, « Qui d'autre ai-je au ciel ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Pierre disait, vers qui irions-nous, toi seul, à les paroles de la vérité éternelle, de la vérité ? Si vous décidiez de devenir pêcheur invétéré, vous dites, « Bon, j'en ai marre, ça ne marche pas cette histoire de foi chrétienne. » Je vais me lancer dans le péché à fond, je vais en profiter. Vers quoi vous iriez? Est-ce que vous n'êtes jamais posé la question? Ce verset de Matthieu, ça m'a souvent... c'est dans le livre, je ne sais plus si c'est... C'est 68, je crois. Vers qui irions-nous? Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je déciderais de me livrer à une vie de débauche sexuelle, quitte à attraper des maladies et ruiner toute ma famille et mes relations? Est-ce que je voudrais devenir l'homme le plus riche du monde? Je vais racheter Tesla. Je vais racheter Elon Musk. Ah oui, ça c'est un but digne de tout donner. Non, qui d'autre ai-je au ciel? Il n'y a pas de relation plus belle que la relation avec Dieu. Et sur la terre, déjà ici-bas, je ne prends plaisir qu'en toi. Pourquoi rechercher le plaisir dans les aventures qui suscitent l'adrénaline, comme de sauter en parachute? Non, je ne prends plaisir qu'en Dieu. C'est une expression d'un cœur qui a soif de Dieu et d'éternité. On peut déjà ici-bas vivre pour l'éternité. Mais il dit, mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser, se flétrir, disparaître. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Ce verset, qui d'autre ai-je au ciel, ça a inspiré un grand auteur de cantiques. Vous avez sans doute chanté des cantiques. Charles Wesley, qui vivait au XVIIIe siècle en Angleterre, il était tellement rempli de l'éternité que sur son lit de mort, il a écrit un cantique. Alors, il ne l'a pas écrit lui-même, il a appelé sa femme et lui a dicté ce texte. Dans le grand âge et l'extrême faiblesse, qu'est-ce qu'un vermisseau pêcheur peut racheter? Jésus, tu es mon seul espoir. La force de ma chair et de mon cœur qui défaille, oh, si seulement je pouvais attraper un sourire de toi et puis m'endormir pour me réveiller dans l'éternité. Là, c'était du sérieux, c'était du réel, il était mourant Et son souhait, c'était de voir, d'attraper un sourire de Dieu et d'être de l'autre côté de l'éternité. Ça, c'est quelqu'un qui a compris pourquoi il fallait aller à l'église, aller dans les sanctuaires de Dieu. Oui, verset 27, oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu as fait. Si vous deviez compléter cette phrase, pour moi, mon bonheur, c'est quoi ? C'est de partir en RTT, d'aller à la plage. C'est pouvoir signer le chèque chez le notaire pour acheter cette grande et belle maison avec une piscine. Ah, ça, c'est le bonheur. Non. Si on a compris les choses, si on a l'esprit, notre intelligence a été renouvelée par la parole de Dieu, par la participation à la vie d'église, dans les sanctuaires de Dieu, à ce moment-là, ce qui compte vraiment, ce qui doit me procurer du bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Ça veut dire que ça, c'est à la portée de tous et de chacun. Tous les matins, on peut prendre ne serait-ce que quelques minutes ou plus tard le soir pour lire la parole, penser à Dieu, penser aux choses de Dieu. Et une fois qu'on a connu ça, on ne va pas rouspéter sur Dieu. On va raconter, on a le désir d'aller raconter tout ce qu'il a fait. Et ce qui est beau, c'est que si nous nous approchons de Dieu, Jacques nous dit qu'il s'approche de nous. Il y a cette intimité qui s'enrichit, qui se fortifie, et ma vie devient quelque chose de beau à vivre et à montrer, à laisser briller autour de moi. Voilà. Donc Zoom, c'est pas mal, mais le psalmiste n'a pas parlé de Zoom, il a parlé des sanctuaires de Dieu. Asaph, on n'est pas sûr de la personne exactement que c'était, des fois ça pouvait désigner quelqu'un de la dynastie ou de la famille des musiciens. Donc c'était soit à l'époque de David dans le tabernacle, soit à l'époque de Salomon dans le temple. Peu importe, ce qu'il y a, c'est d'être en présence de Dieu avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous bénir et donner un sens à votre vie. Et la raison pour laquelle les évangéliques veulent implanter des églises, c'est pas comme le croyaient certains magazines pour prendre le pouvoir. C'est pour qu'il y ait plein et plein d'endroits où les gens puissent pousser la porte et avoir leurs pensées rectifiées selon la sagesse de Dieu, selon le bonheur de Dieu, d'être avec Dieu. Voilà. Et donc, encore une fois, je suis heureux qu'à Paris, il y ait cet endroit. Il y en a d'autres. Assurez-vous qu'ils enseignent la parole de Dieu et qu'ils la vivent en communauté, qu'ils la vivent guidée par le Saint-Esprit, qu'ils la vivent en s'impliquant dans la vie de la cité. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est la vérité, merci parce qu'elle reprend nos cœurs qui s'égarent. Et merci Seigneur pour ce psaume 73, et où l'on voit que si on regarde aux autres, on va être jaloux. Quelle que soit notre situation, il y a toujours des gens plus riches, il y a toujours des gens qui ont l'air plus jeunes, en meilleure santé. Si nous regardons à nous-mêmes, Seigneur, alors nous sommes rapidement au désespoir. Nous voyons nos péchés, nous voyons nos faiblesses, nous voyons notre petitesse, nous voyons combien notre cœur est tortueux. Mais Seigneur, lorsque nous regardons à toi, à ce moment-là, tout change. Et cette perspective éternelle nous satisfait pleinement. Elle nous donne même du bonheur ici-bas. Seigneur, ma prière, c'est que pour toutes ces personnes devant nous, Seigneur, devant moi et devant toi, Seigneur, tu puisses vraiment les aider à se ressaisir lorsque nos pieds sont sur le point de glisser dans les plaintes, le mécontentement de notre sort. Et Seigneur, je prie ça aussi pour moi et je te demande ta grâce pour vivre ce à quoi tu nous appelles, Seigneur. Sois béni, bénis la journée de chacun, Seigneur, et que même dès maintenant, Seigneur, des problèmes qui nous pesaient lourds sur la patate, comme on dit, Seigneur, on puisse les voir avec ta perspective. C'est toi qui es le maître de nos vies, Seigneur, c'est toi qui es un Dieu qui nous aime. Merci de ce que ces vérités, tu ne veux pas que nous les oublions, Seigneur. Tu ne veux pas que, parce qu'il y a des vents contraires, on jette tout à l'eau, Seigneur. Tu veux qu'au contraire, nous nous attachions à ces choses. Merci pour les vérités qui sont enseignées dans ce lieu. Bénis le pasteur, bénis chaque membre, Seigneur, et qu'ensemble, ils puissent faire grandir ton royaume et sauver des tas de personnes pour que, oui, leur vision du monde soit corrigée et soit enfin la vraie vision. Nous prions ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.